Hello les gens, c'est Ludic, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons parler de l'histoire d'Elden Ring. Je vous demandais dans une vidéo précédente si vous préfériez que je fasse des grands formats ou des formats plutôt courts. Les réponses ont été à peu près 50-50, donc j'ai décidé de couper la poire en deux et de faire des vidéos à thème, c'est-à-dire que je vais me baser sur un lieu ou un événement et parler de tous les personnages liés à ce lieu ou à cet événement. Ça va me permettre de faire des vidéos avec plutôt du bon contenu, sans pour autant que ce soit faramineux et indigeste. J'adore vraiment tout ce qui se passe autour de la communauté Elden Ring en ce moment, puisque tout le monde essaie un petit peu de fouiller, de comprendre cette histoire, de recoller les morceaux. Vraiment, il y a plein de commentaires que vous m'avez laissés qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'approfondir ma réflexion sur certains sujets. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est ce qui fait le sel des jeux From Software, et j'adore ça. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos sur le lore, pensez à vous abonner, à activer la cloche. La prochaine vidéo parlera de Chabriri et de la flamme exaltée. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de louper cette vidéo. Pensez également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Vous pouvez également me suivre sur Twitch en live. Vous avez tous les liens utiles en description. Je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à vous laisser avec cette vidéo. C'est parti pour la suite de l'histoire d'Elden Ring. Bastion de la Table Ronde, le lieu où les sans-éclat ont pour la première fois déposé les armes et décidé de s'unir dans l'optique qu'un jour, l'un d'eux gravisse les échelons et devienne le seigneur d'Elden. Mais savez-vous que le bastion que vous explorez tout au long du jeu n'est en réalité qu'une illusion, une reproduction, une version éthérée du véritable bastion de la Table Ronde, fondé à l'époque par O'Hara Lou, chef des terres stériles, lorsqu'il devint Godfrey, premier lord d'Elden. Vous aurez l'occasion de visiter ce véritable bastion lors de votre visite de la ville capitale Lyndell, et vous y trouverez alors un lieu sombre, tombé en décrépitude et vide de toute âme. On peut imaginer que lorsque Godfrey a été répudié par la grâce, qu'il est redevenu O'Hara Lou et que les sans-éclats ont été exilés d'Entre-Terre, le bastion est alors tombé en désuétude. Il fallait aux sans-éclats un nouveau lieu dans lequel se réunir, et ce lieu leur a été offert par la volonté suprême, via l'intermédiaire des deux doigts, une reproduction du bastion intrinsèquement liée à l'arbre monde, en quelque sorte un nexus, dans lequel les sans-éclats pourront se téléporter et se retrouver. C'est d'ailleurs pour cela que quand vous brûlerez l'arbre monde, le bastion brûlera avec lui, la source de son pouvoir étant en train de disparaître. Il est très intéressant d'explorer et d'observer le bastion, pour y trouver des choses remarquables. J'ai notamment été étonné de trouver dans la salle d'audience des deux doigts 8 chaises, et je parle bien de la salle du bastion originel, celui de Lyndell. Ces 8 chaises pourraient-elles appartenir à une sorte de conseil, dirigé par O'Hara Lou, qui régissait le bastion? Mais dans ce cas, qui siège à ce conseil? Ma théorie est qu'il s'agit de sans-éclats relativement importants, ce qui me laisse à penser que les 4 premières chaises appartiennent à Gideon Ofnir, au Masque d'Or, au coprophage et à Fia, la compagne mortuaire. Cela nous laisse 4 chaises vacantes, que j'attribuerai à Ensha, un souverain des sans-éclats, l'une à Vaik, un sans-éclat très puissant dont j'aurai l'occasion de vous parler dans une future vidéo, et les deux dernières pour Séluvis le sorcier et Dolores, la flèche silencieuse. En effet, un objet que vous pouvez trouver dans la zone de Séluvis vous explique que Dolores siégeait à la base au conseil de la Table Ronde, et qu'elle fut la raison d'une fracture entre Gideon et Séluvis, attestant que ce dernier était lui aussi partie prenante de la Table Ronde. Ce triangle de personnages, que j'aime à penser être un triangle amoureux, eut une fin tragique, puisqu'il semble que Séluvis ait décidé de transformer Dolores en un pantin articulé. Précision assez amusante, dans le bastion de la Table Ronde du jeu, les chaises ne sont plus qu'au nombre de 6, ce qui paraît logique puisque Vaik et Dolores ont tous les deux disparu. Tout cela n'est évidemment qu'interprétation de ma part, et je vous invite à me donner en commentaire vos théories et interprétations sur ce conseil des sans-éclats. Autre élément intéressant, les nombreux tableaux qui parsèment les murs du bastion, puisqu'on peut y retrouver des portraits de Oharalu, certains de Fia, la compagne mortuaire, mais aussi des portraits d'une jeune femme rousse avec une tresse. Pourrait-il s'agir de Marika ou d'un autre personnage? Là encore, je vous laisse à vos interprétations. Mais il est grand temps de parler des personnages qui font et habitent le bastion, et l'un des plus anciens et plus importants d'entre eux se nomme Gideon Ofnir. Gideon est la première personne à vous accueillir au bastion, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil y est plutôt froid.
Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place. Newcomer.
Gideon vous explique que vous n'êtes qu'un hôte de passage, un sans-éclat parmi tant d'autres, et ce n'est qu'après avoir obtenu votre première rune majeure qu'il va commencer à voir en vous un potentiel outil. En effet, Gideon cherche lui aussi à devenir Lord d'Elden, mais il est parfaitement conscient qu'il n'est pas suffisamment puissant pour y parvenir. Il décèle alors en vous un sans-éclat capable de terrasser les demi-dieux à sa place. C'est d'ailleurs Gideon qui vous informera majoritairement sur les différentes cibles que vous devez traquer. Il a acquis au fil des années un certain nombre de connaissances, lui valant son surnom d'omniscient. Une fois que vous serez parvenu à brûler l'arbre-monde, Gideon vous attendra sagement juste avant le trône d'Elden, prêt pour un combat final contre vous, qui déterminera qui est le plus à même de devenir seigneur de l'entre-terre.
Ah, I knew you'd come. To stand before the Elden Ring, to become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us, that we continue to struggle. Unto eternity.
Mais vous êtes loin d'être le premier sans-éclat dont Gideon se sert pour parvenir à ses fins, ce qui va nous permettre d'évoquer un autre personnage du bastion, Nefeli Lou. Nefeli n'est autre que la fille adoptive de Gideon Ofnir, et une sans-éclat relativement puissante. Son patronyme atteste qu'elle est de la lignée de Oharalu, le chef des terres stériles, également Godfrey, premier lord d'Elden. Si Gideon a décidé de l'adopter, c'est uniquement par intérêt, car il a vu en elle ce qu'il a également vu en vous, une sans-éclat capable de terrasser des demi-dieux. La première fois que vous croisez Nefeli, elle se trouve au château de Valorage, prête à en découdre avec Godric. Vous pouvez d'ailleurs l'invoquer avant qu'elle vous rejoigne au bastion de la Table Ronde. Elle vous avouera alors être la fille adoptive de Gideon, et c'est au même moment que vous pouvez choisir de lui remettre ou non la potion de Céluvis le sorcier. Vous pouvez également choisir de la remettre au coprophage ou directement à Gideon pour qu'il s'en débarrasse. Céluvis s'intéressait certainement à la puissance de Nefeli et souhaitait la transformer en poupée, comme il l'a fait pour Dolores, en plus de contrecarrer les plans de Gideon, son ennemi juré. Quoi qu'il en soit, Nefeli finira par tomber dans une profonde dépression, lorsqu'elle apprendra les manigances de son père adoptif. Mais si vous vous rendez à la chapelle de l'Anticipation, la zone de début de jeu, et que vous y récupérez les cendres du roi des Faucons des Tempêtes, vous pourrez alors la sortir de sa léthargie. Elle retournera alors au château de Voilorage pour y rencontrer un autre personnage du nom de Kenneth Haight.
Hello? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Haight, servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, Erdtree, grant me succor.
Vous rencontrez pour la première fois Kenneth en Nécrolimbe, alors qu'il est attaqué par une horde de semi-humains. Kenneth est le lord d'un bastion se trouvant à l'est de Nécrolimbe, du nom de Fort Haight, et il semble haïr Godric, qu'il tient pour responsable de tous les malheurs de la région. Il vous demandera de libérer sa forteresse assiégée, et ce faisant, vous proposera de vous adouber en tant que chevalier à son service. Mais pour cela, Kenneth doit avant tout trouver un nouveau seigneur, capable de remplacer Godric, et c'est sur Nefeli Lou qu'il finira par jeter son dévolu. En effet, après avoir vaincu Morgoth, vous les retrouverez tous les deux sur le trône de Godric.
It's been some time. I must thank you for your aid. I told father I would be with him no longer. I remembered the vow I took when I first became a warrior so many moons ago. This land is much like the one from which I hail. I will call upon the storm to drive away the foulness that has settled on the winds.
Intéressons-nous maintenant à un autre trio de personnages du Bastion. Je veux bien sûr parler de Rogier, de Dee et de Fia, la compagne mortuaire. La première rencontre avec Rogier se fera au château de Voilorage, où il vous demandera l'objet de votre venue. Si vous lui avouez être ici pour terrasser Godric, il vous félicitera et finira par vous rejoindre au Bastion de la Table Ronde. Dee, de son côté, est un traqueur de non-morts. Il exècre la malédiction du nom de Malmort apparue avec le décès de Godwin le Doré, lors de la Nuit des Couteaux Noirs. C'est d'ailleurs Dee qui vous introduira auprès de Gurank le Clair Bestial, un être informe se gorgeant de mortes fleurs, des bourgeons apparaissant à proximité des non-morts. Dee et Rogier semblent avoir un passé commun, autour de l'étude de la Malmort. Mais si Dee a un rapport plutôt radical avec cette dernière, il semblerait que Rogier entretienne de son côté un rapport plus scientifique avec cette affliction, cherchant à l'étudier et à y trouver un remède. Malheureusement, Rogier finira par contracter la maladie, et y succombera. Mais un mystère plus épais entoure le personnage de Rogier, et notamment son lien plus que mystérieux avec Rani. En effet, lorsque Rani vous indiquera devoir plonger dans un profond sommeil, c'est exactement au même moment que Rogier disparaîtra.
I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances.
Se pourrait-il que Rogier était en réalité un simple pantin au service de Rani? On peut alors imaginer que Céluvis aurait eu son rôle à jouer, transformant Rogier en une marionnette destinée soit à espionner le bastion, ou même à enquêter sur la Malmort. Et si on veut aller plus loin dans l'interprétation, si vous trouvez la cachette de Céluvis, où il range ses nombreux pantins, vous aurez l'occasion d'apercevoir un cadavre qui pourrait être, selon moi, le véritable Rogier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Intéressons-nous maintenant à Fia, la compagne mortuaire, une sans-éclat capable de communiquer avec les non-morts, et également capable de lire dans le sommeil et les rêves. Elle vous avouera d'ailleurs avoir lu dans les rêves de Rogier, et vous fera part des tourments le traversant. Si vous acceptez d'étreindre Fia à de multiples reprises, elle finira par se confier à vous, avouera son lien plus qu'intrinsèque avec Godwin le prince de la mort, et vous donnera une dague empoisonnée de Malmort à remettre à Dee. Une fois ce dernier mort, elle vous informera vouloir quitter le bastion de la Table Ronde, et vous pourrez alors la retrouver dans les profondeurs de Fond Racine, près du cadavre de Godwin. Lors de la Nuit des Couteaux Noirs, Godwin n'a pas réellement été tué. Son corps a en quelque sorte fusionné avec les racines de l'Arbre Monde, faisant de lui le prince de la mort et dissipant la Malmort en Entre-Terre. Fia cherche donc à reconstituer la rune de restauration du prince de la mort. Problème, Godwin n'en possède qu'une moitié, l'autre moitié ayant été gravée dans Rani au même moment. C'est selon moi pour cette raison que lors de la Nuit des Couteaux Noirs, Rani aurait demandé à Alecto, la chef des assassins, de trancher sa chair pour la libérer de sa condition d'empyréenne et se détacher de cette marque maudite.
I stole the rune of death, slew mine own Imperium flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing.
Si vous récupérez la marque maudite de Rani et la donnez à Fia, elle pourra se lier au prince de la mort et donner naissance à la rune de restauration complète. Ce sera l'occasion pour vous de pénétrer la psyché de Godwin pour y affronter Fortisax, un dragon s'étant lié d'amitié avec Godwin lors du conflit entre les dragons et l'Ordre d'Or. C'est alors que Dee fait son grand retour, ou devrais-je dire plutôt son frère jumeau. En effet, si lors de votre exploration de Noxtella, vous remettez au frère jumeau de Dee l'armure géminée, il réapparaîtra à ce moment-là pour charcuter Fia et crier victoire au pied de son cadavre. On apprend alors le véritable nom de Dee, Darian, et via leur épée, on apprend aussi que ces jumeaux inséparables ont trouvé réconfort auprès de l'Ordre d'Or, seule institution à ne pas les avoir traités en êtres maudits. Étaient-ils des réprouvés? Ou alors étaient-ils eux aussi touchés par la Malmort? Avant d'aborder les cas du Masque d'Or et du Coprophage, je souhaitais revenir sur un dernier duo de personnages du Bastion. Je veux parler de Roderica et Hugh le Forgeron. Vous rencontrez Roderica aux abords de Voilorage. Elle vous annonce faire partie d'un groupe de sans-éclats venus par navire en Entre-Terre et ayant été capturés pour être sacrifiés à la grève de Godric. Roderica culpabilise d'avoir abandonné ses compagnons, mais si vous lui ramenez le souvenir du cocon, elle se rendra d'elle-même au bastion. Elle entamera alors une relation fraternelle avec Hugh le forgeron, qui verra en elle un don et la formera à l'art de l'harmonisation spirituelle. Hugh le forgeron est sûrement l'un des personnages les plus mystérieux de l'univers d'Elden Ring. Prisonnier du bastion à la base, il a été placé ici par Marika en personne, dans l'optique de forger une arme capable de terrasser un dieu. Mais pourquoi Marika ferait-elle une chose pareille? Vous vous souvenez certainement que Marika et Radagon sont respectivement la face féminine et masculine d'une seule et même personne, chaque personnalité ayant sa propre conscience. Eh bien je pense qu'à partir d'un certain point, Marika a commencé à diverger de sa version masculine. Là où Radagon souhaitait réparer le cercle d'Elden, Marika souhaitait le détruire et permettre à un sans-éclat de mettre fin à ce cycle. C'est dans cette optique qu'elle affubla Hugh d'une mission, fabriquer une arme capable de tuer un dieu, et en l'occurrence la bête d'Elden, avec qui elle entretient son pacte d'Empyréenne. Hugh ne faillira pas à sa mission, même lorsque l'Arbre-Monde et le Bastion prendront feu, et sous les multiples injonctions de Roderica, il mettra un point d'honneur à poursuivre son labeur, témoignant du respect mêlé de peur qu'il entretient envers Marika.
But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika.
Il est enfin temps d'évoquer l'histoire de Corinne et du Masque d'Or. Corinne est un prêtre tout ce qu'il y a de plus banal, que vous rencontrez lors de votre première visite au Bastion et qui voue un culte absolu à l'Ordre d'Or. Pour comprendre la suite, il vous faut comprendre la notion d'ordre dans Elden Ring. De la même façon que s'affrontent les deux doigts et les trois doigts, ou Marika et Radagon, deux courants s'affrontent au sein même de l'ordre, celui lié à la loi de causalité contre celui lié à la loi de régression, également appelé ordre interne et ordre externe. La causalité peut être simplement expliquée comme étant le lien de cause à effet, là où la régression stipule que chaque variable finira par revenir éventuellement dans son état d'origine. Autrefois considéré comme une manifestation des forces divines et vestige du creuset de la vie primordiale, le processus de régression est aujourd'hui vu comme une impureté, alors qu'il est un pendant indissociable de la causalité et qu'il forme à eux deux l'intégrité de l'ordre d'or.
I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men.
Avec le temps, Corinne vous avouera avoir l'intention de quitter le Bastion, pour accomplir son but ultime, retrouver le Masque d'Or, un sans-éclat silencieux, intrinsèquement lié à l'Ordre d'Or, et qui semble pouvoir communiquer avec l'Arbre-Monde. Une fois arrivé à Lindel, si vous indiquez à Corinne où se trouve le Masque d'Or, il s'empressera de le retrouver, et se mettra alors à son service en tant qu'élève, cherchant à l'analyser et décrypter ses signes. Cependant, au bout d'un moment, le Masque d'Or va commencer à changer d'attitude, comme s'il était tiraillé. Il reçoit des échos de la raie de Marika, mais semble recevoir au même moment des échos de la voix de Radagon, ce qui le plonge dans un profond conflit intérieur.
Please, I implore you, continue. Continue your reflections, your rhythms. I must be the one to record them. What matters this issue of Radagon, really? The Erd Tree, heart of the Golden Order, lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp.
Si vous mettez alors la main sur le décret de régression et décidez de l'utiliser devant une statue de Radagon, la statue changera et la vérité terrible vous apparaîtra. Radagon est en réalité Marika. Une fois la nouvelle rapportée au Masque d'Or, il semblera alors adopter une nouvelle posture, acceptant la loi de régression comme partie prenante de ses croyances. Il acceptera votre décision de brûler l'Arbre-Monde, ce qui plongera Corinne dans une incompréhension mêlée de démence. Corinne ne comprend pas alors que le Masque d'Or souhaite en réalité que vous purifiez l'Ordre d'Or, ce qui va à l'encontre de toutes ses croyances. Retour à la capitale en cendres, vous le retrouverez désespéré, ne sachant plus quel est son rôle dans ce monde. Et un peu plus loin, vous tomberez sur le cadavre du Masque d'Or, sur lequel vous pourrez récupérer la rune de restauration de l'Ordre Suprême. Vous pourrez alors l'utiliser après votre combat contre la bête d'Elden pour faire renaître l'Ordre d'Or dans sa forme la plus pure, purgée de toute la corruption engendrée par Marika et Radagon.
Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all. The reviled blessing.
Terminons cette vidéo avec l'histoire du coprophage, qui est certainement le seul personnage complètement machiavélique de l'histoire d'Elden Ring. C'est à la base un simple sans-éclat comme vous, mais qui a développé une fascination assez dérangeante pour la malédiction dont sont affublés les réprouvés. Les réprouvés, si vous vous souvenez bien, sont une caste de personnages liés à la lignée d'or de Godfrey, qui ont été maudits à la naissance, cette malédiction causant l'apparition d'excroissances ressemblant à des cornes sur leur corps. C'est le cas notamment pour Morgoth ou Mog. Cela a abouti à la création d'une prison des réprouvés, dans les égouts de la ville de Leyndell, égouts dans lesquels vous pourrez trouver et libérer le coprophage de sa cellule. Le fait est que le coprophage, fasciné par cette affliction, a décidé de tenter de la reproduire via des expériences sur des humains proches de la mort. Ces humains se retrouvent alors dans un état de putréfaction éternelle et se voient refuser de mourir. Le seul personnage de l'aventure lié au coprophage se nomme Bogart, un vendeur de crevettes que vous croisez à Liurnia. Si vous taillez le bout de gras avec lui, il vous expliquera à terme être terrifié par le coprophage, avec qui il a partagé sa cellule. Le coprophage finira par le tuer, et en profitera pour vous envahir et tenter de vous tuer vous aussi. Il vous demandera alors de récolter 5 exemplaires de la malédiction du semi, des extraits de la malédiction qu'il a lui-même cultivée sur des corps profanés. Cela vous permettra alors de déclencher la fin la plus terrible du jeu, correspondant à un âge reflétant ce qu'il y a de pire dans l'être humain.
The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall. The reviled curse that defined our age.